VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Emmanuel Macron est attendu ce lundi à Nouakchott, en Mauritanie, pour la première étape de sa mini-tournée africaine avant Lagos et Abuja au Nigeria. Le chef de l'État français participera à un déjeuner à huis clos au palais des congrès de la capitale mauritanienne qui accueille le 31e sommet de l'Union africaine. Il devrait renouveler à cette occasion son soutien à l'initiative de l'Union africaine en vue d'assurer un financement autonome et prévisible des opérations africaines de paix selon l'Élysée, un enjeu de taille se heurtant aux réticences de Washington qui privilégie l'aide bilatérale à l'aide multilatérale et souhaite couper dans le budget onusien. Au Mali même, des soldats français de l'opération Barkhane ont été visés dimanche par un kamikaze dans une attaque au véhicule piégé à Gao. Le ministère de la Défense a parlé de 4 civils tués et de 20 autres blessés et selon une source hospitalière, le bilan est de 4 morts et 38 blessés. À Bamako, retrouvons notre correspondant Kassim Traoré.
Des militaires français de l'opération Barkhane sont tombés le dimanche 1er juillet dans une embuscade tendue par des terroristes à la sortie qui mène vers la localité de Bourem. Au moins un soldat français a été tué. Il y a également des blessés civils qui ont été acheminés vers l'hôpital régional. Une patrouille de Barkhane a été prise en partie. C'est un kamikaze au quartier 4 de Gao. Très vigilante, un blindé lui a barré la voie et le véhicule kamikaze s'explosa. Le périmètre de l'acte a été complètement bouclé par les militaires français. Certains blessés ont été acheminés à l'hôpital régional et l'une de nos sources dit avoir vu le corps d'un jeune homme qui se trouvait au niveau de cet hôpital. Ce sont les gendarmes qui ont transporté son corps. Le bilan de cette attaque est de 4 morts et 21 blessés dont un gendarme. D'autres victimes étaient du côté de Barkhane. À la veille de cette attaque de Gao, dans la région de Mopti, cercle de Koro à Djungani, 4 militaires maliens ont perdu la vie dans une explosion de mine et 2 ont été grièvement blessés. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Gambie, les victimes de l'ancien régime de Yahya Jammeh ont annoncé le lancement d'une campagne visant à traduire en justice l'ex-président et ses complices. Elle les accuse entre autres de meurtre, disparition et torture. Yahya Jammeh vit en exil depuis janvier 2017 en Guinée équatoriale. Après qu'il a perdu les élections, il a été forcé de remettre le pouvoir à son successeur. Yacouba Ouédraogo a joint Reid Brody, conseiller à l'ONG Human Rights Watch.
Depuis la chute de Yahya Jammeh, évidemment, les victimes des crimes de son gouvernement, les victimes de tortures, d'assassinats, le programme Fantoche contre le sida, etc., les victimes s'organisent pour l'amener devant la justice. Mais nous sommes confrontés à un constat, c'est que la Gambie actuelle n'est pas en mesure d'offrir à Yahya Jammeh un procès serein. Il y a toujours des problèmes institutionnels, sécuritaires et géopolitiques. Mais pendant le règne de Yahya Jammeh, il y a eu un massacre d'une cinquantaine de migrants, des migrants ouest-africains du Ghana, Togo, du Nigeria, du Sénégal en 2005, qui a été opéré par l'escadron de la mort de Yahya Jammeh, les Junglers.
On sait qu'il y a des victimes bien sûr ghanéennes et togolaises et autres, mais à l'intérieur également de la Gambie, il y a des victimes, des familles des victimes qui se manifestent. Qui sont ces familles des victimes gambiennes là?
Évidemment, je suis là à Nouakchott avec Baba Haïdara, qui est le fils d'Eda Haïdara, un journaliste assassiné aussi par l'escadron de la mort de Yahya Jammeh. Il y a la famille des victimes des manifestations réprimées des étudiants. Il y a la famille de Solo Sandeng, assassiné en 2016, et qui a servi à déclencher un peu la vague qui a emporté avec elle Yahya Jammeh. Donc il y a maintenant, plus de 1000 victimes qui se sont réunies au sein de l'association des victimes et qui réclament justice, qui réclament que le gouvernement de la Gambie enquête sur les personnes disparues.
Vous le disiez tantôt, les conditions ne sont pas réunies pour que Yahya Jammeh soit jugé en Gambie, alors que les victimes demandent son extradition vers la Gambie. Ce n'est pas réaliste.
Non, les victimes demandent son extradition vers le Ghana. Les victimes gambiennes ont une sophistication suffisante pour demander qu'il soit d'abord extradé au Ghana pour être jugé pour le massacre de 50 migrants ouest-africains en 2005.
Qu'en est-il des victimes gambiennes à l'intérieur du pays? Demandent-elles aussi qu'ils soient extradés vers le Ghana ou vers la Gambie?
Les victimes gambiennes ont organisé une conférence de presse en Gambie pour demander qu'ils soient extradés au Ghana. Évidemment, on voudrait à la fin que Yahya Jammeh revienne éventuellement en Gambie pour être jugé pour la totalité des crimes qui sont imputés, mais en attendant, et les victimes ghanéennes et les victimes gambiennes finissent pour demander que le Ghana enquête sur ce massacre qui serait un début de justice.
Reid Brody, conseiller à l'ONG Human Rights Watch, joint à Nouakchott. Des proches du président congolais Joseph Kabila ont lancé dimanche, avec leurs alliés venus de l'opposition, une plateforme électorale supposée permettre au chef de l'État congolais de remporter toutes les élections prévues le 23 décembre. La plateforme ne précise rien sur les intentions de Joseph Kabila. Nathalie Barge.
Joseph Kabila est l'autorité morale du Front commun du Congo qui veut aller à la conquête démocratique du pouvoir en soutenant une seule candidature à l'élection présidentielle sur base d'un programme commun, a déclaré le directeur de cabinet du chef de l'État, Nehemi Mwilanya Wilanja. Il s'exprimait lors de la signature de la charte du FCC à 3 semaines de l'ouverture du dépôt des candidatures. Le ministre de l'Intérieur, Henri Mova, est président du comité stratégique du FCC. Le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, représente la majorité présidentielle et le premier ministre, Bruno Tshibala, l'opposition, qui a accepté de rejoindre un gouvernement d'union nationale après un accord politique fin 2016. Une partie de la société civile et l'opposition, qui avaient souscrit à un autre accord, ont également signé la charte du FCC. Le président Kabila reste muet sur ses intentions. Ses adversaires le soupçonnent de vouloir rester au pouvoir.
Le Gabon a décidé de mettre en place une politique de réduction drastique des dépenses publiques qui passe entre autres mesures par une baisse de 40% du nombre de fonctionnaires de la présidence de la République. À cette fin, le président Ali Bongo Ondimba a décidé la remise à disposition de leur administration d'origine de 40% des personnels nommés à la présidence. Les mesures prévoient également une diminution des membres des cabinets ministériels, l'interdiction de voyager en classe affaires pour les hauts fonctionnaires en dehors des membres du gouvernement et assimilés, et l'interdiction d'acquérir des véhicules de plus de 30 millions de francs CFA dans toute l'administration et autres services publics.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président iranien Hassan Rouhani a quitté Téhéran aujourd'hui en début d'après-midi pour une visite en Europe présentée comme capitale pour l'avenir de l'accord sur le nucléaire iranien après le retrait des États-Unis de ce pacte. Monsieur Rouhani doit se rendre en Suisse lundi et mardi, puis mercredi à Vienne, où a été conclu en juillet 2015 cet accord ayant permis à l'Iran de sortir de son isolement international en échange de la mise en sommeil de son programme nucléaire et de son engagement à ne jamais chercher à acquérir la bombe atomique. Ce voyage sera l'occasion de parler de l'avenir de l'accord, a déclaré le président iranien lors d'un point de presse à l'aéroport de Mehrabad de Téhéran avant de monter dans son avion, selon des images transmises par la télévision d'État. Les États-Unis risquent des représailles de leurs partenaires commerciaux si Donald Trump met sa menace à exécution de taxer les importations de voitures étrangères, a prévenu aujourd'hui l'Union européenne dans une lettre adressée aux autorités américaines. La Commission européenne estime que des produits américains d'une valeur pouvant aller jusqu'à 294 milliards de dollars pourraient être touchés par les mesures prises par l'UE et les autres partenaires commerciaux des États-Unis. Andrés Manuel López Obrador a obtenu une large victoire dimanche à l'élection présidentielle mexicaine, offrant un premier succès historique à la gauche dans un pays confronté à une vague de violence sans précédent. Selon une estimation officielle, l'ancien maire de Mexico obtiendrait entre 53 et 53,8% des voix devant le jeune conservateur Ricardo Anaya et José Antonio Meade du Parti révolutionnaire institutionnel, le parti au pouvoir. Ces deux rivaux ont rapidement reconnu leur défaite et l'ont félicité pour sa victoire. Et puis le sport, pour terminer, le Mondial 2018, gare aux mauvaises surprises pour le Brésil et la Belgique. Aujourd'hui, les Brésiliens croisent le fer avec le Mexique et la Belgique sera opposée au surprenant japonais. Jean-Roger Billon, fin de ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes. avec Henri Francisque. Bon après-midi à tous sur le continent.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.